De retour à l'émission Au gré du temps, notre invité cette semaine, nul autre que Corneille. Vous avez parcouru quand même votre route, même si ça fait pas tellement longtemps que vous êtes dans le milieu. Et on dit que nul n'est prophète en son pays. C'est probablement en juillet 2002, à Paris, que tout cela a véritablement commencé. Votre carrière a été vraiment remarquée lorsque vous avez été sur la grande scène des Francofolies de La Rochelle.
Oui,
c'est exact?
Oui, c'était un beau souvenir, ça. C'était un beau souvenir. C'était le début de tout. L'album n'était pas sorti encore. Et je me suis retrouvé littéralement entre deux artistes. Je n'étais même pas sur le programme. Je n'étais pas annoncé. Puis mon tourneur a réussi à me jeter là-dedans. Ouais. Et je me suis fait ma place, littéralement.
J'essaie de faire le lien entre ce que vous nous disiez lors de la première partie d'émission. Vous aviez amorcé des études en génie pendant à peu près une semaine,
à peu près. Je suis même pas sûr que ça complétait une semaine.
Disons 4 jours et demi.
C'est ça, à peu près.
Qu'est-ce qui vous fait ensuite passer du génie aux communications et des communications à la musique?
Oh, là, je ne suis pas passé à la musique. La musique avait toujours été là depuis le Rwanda, depuis mon adolescence.
Mais de façon plus professionnelle.
Ah, ça a toujours été professionnel. J'ai toujours gardé un œil professionnel sur la musique. J'ai toujours enregistré de la musique, des démos. J'ai toujours fait des shows. La seule chose, c'est que j'avais une façon très cartésienne de voir les choses. Je me disais, il faut que je finisse mes études, que je me garde une base solide académique.
Les avez-vous complétées d'ailleurs?
Plus ou moins. J'ai pas fini ma troisième année parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis rendu en troisième année. Je pense que j'ai appris ce qu'il fallait que j'apprenne. Je vais pas me casser là. Puis surtout à ce moment-là, je commençais à travailler sur mon premier album en français, ce qui était très demandant. Puis il fallait que je travaille aussi à côté pour payer mon loyer. Donc ça devenait très demandant de m'occuper de ma carrière débutante et aussi d'avoir une vie d'étudiant. Donc j'ai interrompu vers la fin de l'année.
Et là, votre premier album apparaîtra en septembre 2002, c'est exact, parce qu'on vient de loin.
Ici au Québec, oui. Il est paru en France en février de l'an d'après, en 2003.
Voilà, et ça a été un album qui a connu un succès fulgurant.
Oui, et qui a pris du temps ici au Québec. Il a fallu que ça marche en France pour que ça marche ici.
C'est pour ça que je disais que nul n'est prophète.
Voilà, c'est ça, c'était pour fermer la boucle.
Votre pays d'adoption. Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique classique?
Oui.
Oui? Oui, est-ce qu'il y a des...
J'en réécoute de plus en plus maintenant parce que je fais un lien direct avec mon père qui adorait la musique classique.
Est-ce que l'opéra, ça suscite chez vous des émotions?
Je suis un novice. Donc pour moi l'opéra c'est les grandes dames et les grands messieurs de l'opéra. Donc je suis prêt à découvrir parce que encore une fois la musique classique j'ai pratiquement grandi avec, mon père adorait ça.
Alors je vais vous faire une belle découverte de deux personnes d'ici, Nadia Blanchette qui est soprano et de Pierre Simard, qui dirige la Société Lyrique à Touchant, dans un extrait de La Bohème de Puccini.
Ah, Puccini, je connais.
Ah, voilà, et c'est un air vraiment très agréable à entendre. L'extrait a pour titre « Quando mi envo ». Voici donc Nadia Blanchette.
Écoutons ça. Oh.
C'est quand même joli, n'est-ce pas?
Très joli, très joli.
Puccini, vous disiez que vous connaissiez, donc vous avez déjà écouté quelques opéras de Puccini. La Bohème, par exemple.
Oui, j'en ai écouté beaucoup. Mon père, je ne sais pas si il, je sais pas si il savait ce qu'il faisait ou c'était tout simplement par hasard, mais il m'a fait découvrir la musique classique à un âge où la musique classique n'est pas cool. Moi, quand j'étais à mon adolescence...
C'est pas l'âge où on
s'intéresse, où on est censé s'intéresser à la musique classique. Et moi, mon père, à l'âge de 11-12 ans, mon père me faisait écouter du Bach, du Schubert, du Mozart, Beethoven, bien sûr. Très jeune, puis Vivaldi, puis j'ai découvert ça à cet âge-là. Pour moi, c'était cool parce que mon père me le faisait écouter. Je l'ai appris de la figure qui représentait le cool le plus possible. Donc moi, tout ce qui m'apprenait était cool anyways. Donc j'ai grandi avec l'idée de le classique c'est cool. Et aujourd'hui, où je suis à l'âge où je peux apprendre de ce génie là parce que ce qui se faisait ce qui s'est fait à cette période-là, ça relève du pur génie.
Et quand on écoute Mozart, par exemple.
C'est encore pertinent dans la manière dont on fait la musique aujourd'hui. C'est indéniable. Et pour moi, c'est grand.
Et vous, vos influences musicales, elles viennent d'où? Votre intérêt pour la musique? Bien sûr, vous parliez de votre père qui écoutait de la musique classique. Mais pour faire le style de musique que vous faites, vous avez sûrement subi des influences.
Oui, très jeune au Rwanda, j'ai découvert Michael Jackson à l'âge de 8 ans, comme beaucoup de gens de ma génération. Et peut-être que j'ai fait sans m'en rendre compte, maintenant que vous me posez la question, peut-être que sans m'en rendre compte, je voulais entendre tout ce qui pouvait appartenir à la même famille musicale que Michael Jackson. Donc Stevie Wonder et tous ces gens-là, ça me parlait déjà à un jeune âge. Et... très très jeune, très vite, je me suis intéressé à la musique soul, R&B américaine. C'est ce que moi j'aimais. En dehors de ce que mon père me faisait découvrir, c'est à ça que moi j'accrochais.
Et ça vous a vraiment, encore aujourd'hui,
encore aujourd'hui,
probablement
c'est
marqué.
Encore aujourd'hui, ouais. C'est, j'ai pas de... Je peux très honnêtement dire que c'est la musique qui m'intéresse encore le plus aujourd'hui. Et je retourne dans le passé, dans un passé que je ne connais pas du tout parce que j'étais pas prêt d'être né encore, mais je m'intéresse beaucoup aux origines de cette musique-là. Et ça m'emmène loin et j'apprends énormément. C'est une très belle école de la musique.
Et vous allez nous faire découvrir aussi une autre école, celle de la musique dite africaine.
Oui.
Il y a un groupe...
Qui est pluriel, hein, la musique africaine, oui. C'est tellement riche.
Exact. Mais il y a un groupe qui est de plus en plus populaire parce qu'il est probablement celui qui puise bien à ses origines. C'est le groupe de Lokwakanza,
c'est un artiste, un auteur, compositeur qui partage mes origines parce qu'il est moitié rwandais, moitié congolais. Et... si on suit un petit peu ce qu'on connaît un petit peu l'histoire de ces deux pays, il y a quelque chose d'assez fort là-dedans dans ce mélange. Et c'est un des musiciens que j'admire le plus. Puis c'est pas juste parce que je le connais, c'est quelqu'un qui est un interprète hors pair, un guitariste hors pair aussi, puis qui est tellement talentueux.
Disais groupe, je fais une parenthèse, bien sûr on parle de l'artiste, mais je disais groupe parce que lorsqu'on écoute cet artiste, on sent très bien les musiciens tout autour parce qu'il y a tellement de variétés d'instruments.
Oui, mais c'est ça la musique, surtout la musique congolaise, c'est une musique de groupe. Ça prend un batteur, ça prend un bassiste, ça prend un guitariste et une ou plusieurs voix. Donc c'est une musique de groupe. Et la musique africaine de manière générale, c'est quelque chose qui se célèbre et traditionnellement qui s'est toujours fait en groupe. Mm-hmm. Donc oui, c'est vraiment ça. Et le Lokwakanza, oui, il a des musiciens absolument extraordinaires.
Et il est de plus en plus connu sur le marché européen et en Amérique maintenant via le Québec parce qu'au Québec ça tourne.
Oui, puis il a fait beaucoup de d'arrêts à plusieurs festivals ici au Québec, Nuit d'Afrique, les Francopholies. C'est quelqu'un que j'admire énormément.
Alors on écoute.
Kanda nanga isaya nyama Pasieleke linga mingi Kolinga moninga Bomakate Oyo yanga Ikumangambo Yoke langa Itango nakoloba Kandananga Isaya nyama Dime langa Itango akolela Otemananga Izali seyo Kala na lobi no oyoka Makambo yosonga Ninga kate Kandananga Izaya nyama Pashieleke linga mingi Kolinga moninga Ibo makate Oyo yanga Eko mangambo Yoke langa Itango na koloba Kandananga Izaya nyama Dime langa Itango na kolela Ote mananga
De retour à l'émission Gris du Temps, alors que nous entendions cet artiste africain, Lokua Kenza. Et notre invité aujourd'hui, c'est Corneille. Corneille, il y a quelqu'un qui vient de se joindre à nous.
Qui vient de nous surprendre, c'est mon épouse Sophia. On a parlé d'elle plus tôt, donc.
Bonjour.
Mais bonjour.
Alors, Sophia de Medeiros, on disait précédemment que vous partagez maintenant la même passion que Corneille, c'est-à-dire oui. L'amour de la musique.
Oui, tout à fait.
Il y a une ouverture et une complicité incroyable, puisque dans la vie, vous faites un couple.
Oui, en effet, oui.
Et la musique, quand on parle de Corneille et quand on parle de vous, il y a quand même des points de convergence.
Oui, plusieurs même. Même que je pense que ça a été un des points qui nous a rapprocher dès le début de notre rencontre. Parce qu'il y a quelque chose dans la musique qui fait qu'on se sent plus compris. Quand on a partagé les mêmes goûts musicaux, les mêmes références musicales, il y a quelque chose de culturel, de très, très fort. Hein. On a passé beaucoup de temps dans nos jeunes âges ou dans l'adolescence à écouter les mêmes trucs, à avoir les mêmes références. Donc, on pouvait parler, on pouvait se comprendre à un autre niveau.
Et pourtant, vous ne
pouvez pas... Alors séparés par
voilà.
Deux continents.
Oui, exactement.
Parce que vous êtes d'origine portugaise.
Tout à fait, oui.
Alors, dans le fond, rien n'avait été prévu pour que cette rencontre puisse surgir un jour.
Mm-hmm. Mais c'est probablement le fait qu'on a eu des expériences de vie qui se ressemblent du fait que, justement, on a voyagé un peu partout, on a dû se réadapter à différents environnements. Moi, oui, je suis née de père portugais, de mère québécoise. J'ai vécu à un très jeune âge, j'ai déménagé à 10 ans à Vancouver. Ensuite, j'ai déménagé vers 16 ans en Argentine. Donc, j'ai dû m'adapter, apprendre différentes langues, mais j'ai toujours eu une passion pour le soul, R&B. C'est vraiment mes racines musicales aussi, donc... Mais en même temps, j'écoutais de la musique française, du classique, toutes sortes de trucs à cause de mes parents. Donc, on avait cette espèce de force d'adaptation aussi qui...
Est-ce que, justement, votre passé, même si vous ne venez pas du même pays, est-ce que cela facilite l'ouverture sur le monde et l'intégration de ces différents courants musicaux?
Tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, et l'appréciation, hein. C'est quelque chose qui se développe, je crois, les sonorités, les rythmes, tout ça vient de tout ce qu'on est, puis tout ce qu'on a écouté sans même s'en rendre compte à travers les voyages, à travers
donc il y a une influence mutuelle de l'un et de l'autre.
Ah oui, tout à
oui,
fait.
Aussi,
ah
oui, aussi, oui. Oui, 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 c'est vrai. Oh, ouais. Oui.
Est-ce que c'est difficile, cependant, de faire la même carrière? Et de faire chacun son bout de chemin, parce que malgré les influences, chacun veut bien sûr développer son propre style, mm-hmm. avoir sa caractéristique propre. J'imagine que ça peut créer parfois des points de tension.
Oui, c'est ça.
Oui, mais le défi, c'était pas d'arriver à exercer le même métier, puis en même temps essayer d'exister, puis de revendiquer qui on est. Le défi au départ, c'était d'aimer... d'être tellement proche de ce qu'on fait, puis en même temps d'être tellement proche de la personne avec qui on partage ça, que ça devenait très personnel par moment, parce que en travaillant sur son album, je voulais que ce soit le meilleur qui puisse être, mais en même temps, c'était la première fois que moi, je prêtais mes services à un autre artiste comme réalisateur, Donc j'avais mes idées, mais il fallait constamment que je me rappelle que c'était pas mon album, que c'était son album.
Oui, ben, de toute façon, je pense que je te le rappelais aussi. Non, mais il faut dire que c'était même ça, si défi, c'était oui. mon premier album, j'avais quand même, j'ai une identité propre à moi. Bien donc sûr. Souvent, parce que probablement je l'ai fait plus tard aussi. Corneille a fait son premier album, il était début vingtaine. Moi, je l'ai fait fin vingtaine. Donc il y a certaines choses chez moi que je savais quel genre de son, quel genre de texte que j'avais envie d'entendre. Puis c'est arrivé que j'ai dit à Corneille, non, ça c'est pas moi, c'est ouais. très beau, mais c'est pas moi, donc...
Alors, un peu comme peut-être papa et sa fille, parce que vous avez parlé de Nat King Cole, mmh. on sait que sa fille, Natalie Cole, a fait carrière aussi. Mmh. Évidemment, elle était très jeune lorsque son père est décédé, mais on ressent la caractéristique propre à la fille, mais les influences de papa sont toujours présentes. Ouais. À votre demande, vous avez choisi cette chanson qui a pour titre...
Walking My Baby Back Home.
G is great after being out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go long harmonizing a song, or I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye, walking my baby back home. We stop for a while, she gives me a smile, snuggles her head on my chest. We start to pet, and that's when I get her talcum all over my vest. After I kind of straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back home.
Un mot sur cette chanson, Corneille.
Oh mon Dieu, Nat King Cole. J'aurais pu choisir 20 chansons de lui. Mm. Je les aime toutes. Celle-là, il y a quelque chose de mignon, de Walking My Baby Back Home. Il y avait une façon de parler de l'amour avec une légèreté qui, en même temps, traduisait quelque chose de tellement poétique puis de beau, puis ça dérangeait pas que ce soit léger. Et qui marche encore aujourd'hui.
Vous parlez d'amour, vous êtes la représentation tous deux de cette multiplicité de courants. On parle bien sûr du multiculturalisme. Oui. Vous êtes cette consécration vivante de ce Québec moderne.
Mm. Tout à fait.
Ouais, et nos enfants encore plus.
Ouais, tout à fait.
On s'inquiète un peu pour eux parce qu'on se dit comment est-ce qu'ils vont expliquer leurs racines. Ça va
mais
être assez intéressant.
Seuls. Ils seront pas seuls, justement. Je pense qu'ils c'est ce qui nous rassure.
Vous en avez déjà?
Non, pas encore. Les futurs enfants.
Alors, vous souhaitez en avoir?
Oui, tout à fait, absolument.
Et comment vous envisagez justement? Vous disiez qu'il y aurait peut-être quelques difficultés, mais pourquoi dites-vous ça?
C'est un peu comique, mais c'est parce que bon, moi, je sais ce que c'est d'être justement mi-portugaise, mi-québécoise, puis avoir voyagé un peu partout, donc je me suis toujours sentie un peu différente, donc je sais que nos enfants vont probablement sentir comme ça, mais ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient, qui sont nos parents, qui nous aiment, puis après...
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la question « d'où viens-tu », ben la réponse sera pas un mot, et il va falloir qu'ils disent « ben mon père est rwandais, ma mère est québécois-portugaise, québéco-portugaise... »
Citoyen du monde!
Ouais, c'est ça,
mais d'autant, parce que j'ai déjà entendu Gilles Vigneault dire qu'on ne peut pas être véritablement citoyen du monde parce qu'on fait toujours appel à ses racines, quelles qu'elles soient. On peut, par contre, avoir cette manifestation d'ouverture au monde, de pouvoir intégrer plein de choses. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout cela?
Moi, je pense que, je ne sais pas quand Gilles Vigneault l'a dit, mais ça devait être... très adapté à l'époque où il a dit, mais ce n'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Parce que parler d'une racine, ce serait réduire la racine à quelque chose de singulier. Il y en a une. Moi, je peux pas dire que j'ai une racine. À Sophia, si tu lui demandais c'est quoi tes racines, il faudrait qu'elle choisisse entre le Québec et le Portugal, puisque les deux parents ne viennent pas du même endroit.
Si je pose la question, quelle est votre part d'attache?
C'est nous-mêmes, c'est nous deux.
C'est notre couple.
C'est notre couple. C'est ça notre amour. Port d'attache.
C'est ça.
Ouais. C'est notre amour, c'est...
C'est ce qu'on construit ensemble, c'est ce qu'on se construit pour nous. C'est un peu comme la chanson de Corneille, En attendant la nouvelle chanson. C'est un peu ça, le futur. Nous ne sommes pas blancs ou noirs. On ne peut plus juste être quelque chose de précis comme ça. Aujourd'hui, on est tous un petit peu de tout. Puis même si on est, je sais pas, 100% québécois, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on a toutes sortes d'influences. On a une vie, on a un parcours, on a des choses qui, des couleurs, des teintes que l'on prend de nos expériences, puis c'est ça qui nous rend différents.
Je pense que
humains.
Il y a des gens pour qui ça vaut, que ça veut dire quelque chose, avoir une racine, quand on est né dans un endroit, que ses parents et ses grands-parents viennent du même endroit et partagent cet endroit comme racine commune. Mais il y a aussi d'autres personnes pour qui ça ne s'applique,
mais elles sont
à qui
importantes.
Ça ne s'applique pas du tout.
Elles sont importantes et elles font partie de nous. Et c'est important d'en parler à nos enfants, puis de parler de l'histoire de Corneille, de mon histoire, de nos héritages et de tout ça. Je trouve que c'est quand même important parce que c'est vrai que ça construit la base de qui on est. Puis,
Alors qu'on est encore trop jeune pour savoir. C'est une autre racine, je ne sais pas.
Mais tout le moins, vous l'avez exprimé d'une certaine façon lors du lancement de votre premier album. Vous diriez tout simplement « parce qu'on vient de loin ».
Exactement.
Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Elle est trop lourde quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière.
Cette chanson va probablement être constamment votre carte de visite parce qu'elle a vraiment été la chanson qui vous a lancé.
Oui, ça restera la chanson dans la francophonie en tout cas sera toujours attachée à mon nom ou vice-versa, c'est sûr.
Puisque le temps nous glisse déjà entre les mains, nous devrons bientôt nous dire au revoir. Vos projets, quels sont-ils? Des projets à moyen et long terme. Vous avez parlé des enfants.
Oui,
c'est un très beau projet.
Oui.
C'est très important.
Est-ce que c'est pour très bientôt ou c'est pour dans 10 ans?
On espère pour très bientôt.
Ouais, plutôt court terme.
Ouais. Ouais, ouais. Au plan de la chanson, beaucoup de projets, je présume. Mais d'autant que vos productions musicales sont, comme vous le dites, universelles. Elles peuvent être diffusées un peu partout.
C'est ça. Continuons à faire de la musique ensemble parce qu'on adore ça. On aime beaucoup ça.
Oui, puis Corneille va être... sur je sais pas si t'en as parlé plus tôt, mais je pense que tu vas être au show des Francopholies. Il va ouvrir les shows des Francopholies.
Ça a déjà eu lieu, puisque nous sommes déjà au printemps.
C'est, on est déjà au printemps, c'était l'année passée.
Donc, il y a eu un très beau show.
Mais il y en aura probablement d'autres.
Mais, oui, mais il y a plein de beaux trucs qui se passent.
Peut-être cette année que je vais revenir aux Francopholies, parce que l'année passée, c'était à l'extérieur. Cette année, peut-être que je le ferai en salle, je sais pas, on verra.
Vraisemblablement, vous êtes un couple heureux.
Oui.
Et c'est ce que nous vous souhaitons pour de nombreuses années à venir.
Merci.
Merci d'avoir été de passage dans nos studios, Sophia de Medeiros et Corneille.
Merci. Merci.
Mieux connu sur Cornelius Nyungara, mais maintenant Corneille.
Oui, c'est ça. Merci.
Merci, au plaisir. C'était l'émission Au gré du temps, Armand Dubois micro. Nous recevions donc Sophia de Medeiros et Corneille. Nous vous souhaitons une agréable semaine. Revenez-nous en pleine forme la semaine prochaine. Au plaisir, cette émission s'est faite sous la supervision technique de Joe Pacheco. Au plaisir, au revoir.
Au revoir.